pour les deux plats du jour.
Je peux goûter comme ça?
Oui, 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 bien sûr.
The menu, please.
Oh, tu goûtes ça.
Moi, je voudrais vous chanter en quelques mots les mérites d'un légume fruit que j'adore personnellement et qu'on appelle la rhubarbe. La rhubarbe, c'est certainement un des légumes les plus savoureux du potager. Je vais vous faire soit un chutney de rhubarbe, soit une tarte à la rhubarbe.
Une tarte, ouais.
C'est bon, je préfère toujours la rhubarbe.
Ce matin, sur l'étiquette, on peut lire confiture de rhubarbe.
Tiens, le voleur de rhubarbe.
Laissez-vous aller dans cette mer verte.
Je fais par exemple une compote de rhubarbe au sirop de coquelicot. C'est très très bon.
D'avril à octobre, pour manger de la rhubarbe française, soyons cocardiers. Et alors, il faut quand même vérifier quand on l'achète qu'elle soit fraîche. Ouais. Comme, exactement comme la queue d'une cerise ou comme le pénoncule d'une fraise, turgescente. Oh. N'oubliez jamais ce mot-là. Et que le point de coupe soit encore un peu humide.
Un plateau de couleur turgescente, justement, ce dimanche. On est raccord avec les préconisations de Jean-Pierre Coff. Bonjour à toutes et tous. Bienvenue sur le plateau dont on va déguster. Eh bien, notre plateau s'est carrément transformé en champ de rhubarbe. La rhubarbe, on aime, mais en général, on ne sait pas trop comment s'y prendre pour la passer à la casserole. On explore aujourd'hui les vertiges de cette tige avec un maraîcher qui la cultive à Saint-Riquier. C'est un village de la Somme, pas loin d'Abbeville, et c'est Mathieu Vermez. Bonjour.
Bonjour.
C'est la pleine saison, hein, je crois, au domaine de la Source.
Exactement.
Le domaine de la Source, c'est le nom de votre exploitation, et en ce moment, vous passez votre temps à ramasser de la rhubarbe. Vous nous avez apporté un très très bel échantillon de votre production. Il y a des tiges d'une taille, je ne soupçonnais pas des rhubarbes aussi volumineuses, c'est donc possible?
Oui, en fait c'est une rhubarbe géante qui s'appelle la Goliath.
Et qui se mange.
Et qui est très décorative mais qui surtout se mange.
On va voir ça avec vous, vous allez nous raconter tout sur cette plante potagère que vous livrez d'ailleurs à de grands chefs et de grands pâtissiers. La rhubarbe au fourneau, c'est le boulot de notre deuxième invité. On lui a fait livrer son poids en rhubarbe cette semaine à la maison et on lui a lancé le défi de nous rapporter des créations simples et originales. Sur notre plateau, c'est l'une de nos cuisinières préférées, tout simplement. Kéda Black, bonjour.
Bonjour.
Avec une petite ascendance écossaise du côté de papa, je crois.
Oui, c'est ça. Oui,
pays
oui.
Anglo-saxon, on aime la rhubarbe. Hein.
Oui, oui, qui explique le goût pour la rhubarbe transmise.
Dans c'est les ça, ouais. Exactement. Marmelade, pickles, sucré, salé. On va voir qu'avec vous, la rhubarbe ne finit pas de nous surprendre. Hein.
C'est ça.
Et eh ben, on va voir ça, et notamment il y a une belle tarte, oulala, avec une jolie meringue qui a l'air croustillante. On l'a forcée à avaler de la rhubarbe toute sa jeunesse, et aujourd'hui elle remercie sa maman suédoise de lui avoir transmis le virus. C'est peut-être ce qu'on appelle le syndrome de Stockholm.
Bien vu ça.
Elvira Masson, bonjour.
Bonjour à tous. Ben, c'est pas faux, j'ai été nourrie à la rhubarbe, ce qui explique peut-être que je suis devenue une grande tige.
Oui.
Mais en effet, maintenant j'aime ça. J'ai une jeunesse un peu compliquée de ce point de vue-là.
Oui, oui, mais d'ailleurs, vous avez l'air, si j'en juge à votre plat avec ce magnifique gâteau à la rhubarbe, vous avez l'air d'être assez réconcilié en fait.
J'ai voulu changer un peu de la compote de rhubarbe en fait. Voilà, j'ai apporté un gâteau d'origine suédoise.
Génial, on va goûter ça dans un instant. Et puis notre chroniqueur vin, Antoine Gerbel, bonjour.
Bonjour.
Je vous tends un piège. Les accords rhubarbe vin. Ah, mais quoi qu'avec vous, c'est peut-être possible.
C'est très possible et on va se régaler même.
Ah, bah très bien, on va voir ça. Retrouvez le podcast de l'émission, les recettes de nos invités et toutes les infos pratiques de l'émission sur franceinter.fr. À la page, on va déguster. Derrière la vitre de la régie, Michel Billou, Guillaume Roux, Nadia Chougui. Programmation musicale, Djoubaka. Juste avant de déguster la rhubarbe, quelques actualités du côté de l'île de beauté.
Sur France Inter, avec François-Régis Gaudry. On va déguster.
Une surprise gourmande, Elvira Masson. Ah, ça c'est un bruit salutaire.
Je vous ai apporté des biscuits.
On fait goûter à Kéda ?
Kéda, c'est fait, vous avez goûté ?
Ouais, j'ai goûté.
Alors ?
Bah, c'est bon. J'ai goûté celui-là, celui qui est plus brun, ou je sais pas, il y a peut-être une épice ou une farine.
Ouais.
C'est bon sans plus ?
Si, c'est délicieux. C'est délicieux, peut-être un peu de châtaigne ou une farine.
La noisette.
La noisette. C'est pas hyper franc noisette, mais c'est très bon.
C'est subtil.
Noisette, c'est subtil, ouais.
Ah
c'est
ça. Moi, j'ai,
ouais.
Moi j'ai,
c'est délicieux.
J'ai mis la main dedans ce matin. Bah, je vois d'ailleurs,
il reste avec un café. Ou, ouais.
Alors, ces biscuits sont le fruit de l'histoire d'une reconversion professionnelle réussie. Oui. Celle d'Émilie Le Goff et de Marie-Claire Pierry. Le Goff, Pierry, ça vous plante un peu le décor? On est en Corse et en Bretagne.
Ouais.
Papa breton, maman corse. Ouais. Elles sont donc deux sœurs installées à Ajaccio qui confectionnent ces biscuits. Bien sûr, des Canistrelli, le biscuit emblématique de la Corse.
Ouais.
Mais aussi ces délicieux Delizzi, des biscuits d'inspiration traditionnelle. Des
Litsi, c'est ça.
Avec deux i.
Oui.
Alors, je sais pas comment ça se prononce.
D-E-L-I-Z, deux i.
Donc, tiré d'un répertoire traditionnel corse, familial, marié à des techniques d'excellence qu'elles ont apprises lors de leur reconversion professionnelle. Mm-hmm. Elles travaillent ainsi de la farine de châtaigne avec du miel de châtaignier.
Ah oui, j'ai goûté
elles
ça.
Elles travaillent...
Avec une belle amertume.
Exactement. Le vin blanc Claude Alzetto. Ça, c'est le deuxième que vous avez goûté qui est parsemé de sucre.
Biscuit au vin blanc, tradition corse.
Mais surtout celui-ci dans lequel vous êtes tombé, François Régis, et moi aussi. Ce petit biscuit à la noisette de Tchervion, magnifique noisette, qu'elles accommodent avec un petit peu de beurre. Donc, on n'est pas dans le biscuit traditionnel corse à l'huile. Leurs origines bretonnes expliquent qu'elles y mettent un peu de beurre.
Petit savoir-faire breton.
C'est pas fabuleux, ça. On est pratiquement dans un sablé qui s'effrite.
C'est extraordinaire. À la fois en termes de texture, et puis il y a, je sais pas, peut-être une petite pointe de sel qui fait qu'on remet la main dans le paquet très, très vite.
Ouais. Moi, c'est un des meilleurs biscuits que j'ai jamais goûté. Alors, les anciens, je leur posais la question, les anciens Corses voient ça un petit peu d'un drôle d'œil, qu'on aille mettre du beurre, qu'on change un petit peu les recettes traditionnelles, peu importe. La maison Kameda, c'est le nom de l'enseigne qu'elles ont créée, marche très très fort, ça commence à marcher très fort. Kameda comme Camille, en Corse, le nom de leur grand-mère.
Génial, magnifique. Et on les trouve où alors ces biscuits ?
On les trouve dans différents points
de vente. Maison Kameda Ajaccio.
Maison Kameda Ajaccio. Maison Kameda avec 2D.com. Mmh. C'est la meilleure adresse pour les acheter tout simplement en ligne partout en France.
De délicieux biscuits qui ont l'inconvénient d'être particulièrement addictifs.
Hein. C'est vrai.
Merci beaucoup Elvira. Il y en a un autre qui était en Corse. Ben, on peut avouer qu'on y était un peu tous ensemble.
C'est vrai,
fait.
On peut le dire.
Antoine Gerbel,
souvent en Corse.
Qui connaît bien la Corse et notamment ses vins.
Oui, on a fait une dégustation il n'y a pas longtemps en Corse. Alors, dégustation toujours passionnante avec des vins d'artistes. Il faut savoir qu'actuellement, l'île est fleurie. Il y a une quinzaine de vignerons exemplaires et qui, malheureusement, n'ont pas assez de vin pour l'île. C'est-à-dire que l'été, là où les continentaux fréquentent plus souvent l'île, on est un petit peu en peine de trouver les grands vins, que ce soit les vins d'Abatucci, d'Arena, de Canarelli ou Sébastien Poli, que j'aime beaucoup, donc connaît moins la qualité sur la marque Oustilchon ou Gérard Courrèges. Bon, tous ces gens-là sont connus, les sommeliers courent après, pas seulement les sommeliers français, les Japonais sont fous des vins corses, les Américains à New York, il y a un carton fou autour des vins corses. Donc non, je voulais juste vous parler d'une initiative beaucoup beaucoup plus simple, c'est à propos de l'IGP Île de Beauté. Vous savez, c'est ce IGP de base, on va
dire indication géographique protégée.
Protégée, donc c'est le vin de pays de jadis. Et le vin de pays de l'île de Beauté n'est pas très bon de qualité. Il y avait de grosses caves coopératives qui fournissaient vraiment le strict minimum pour les touristes sur la plage, sous la paillote. Et c'était vraiment très mauvais si on ne mettait pas 14 glaçons par verre. Et l'interprofession a pris ça en main. Ils ont fait un cahier des charges très intéressant. Une nouvelle bouteille transparente, assez jolie, avec une île dessinée dessus. Et c'est que du rosé. Et ça se trouvera désormais dans les grandes surfaces. Donc ça n'a pas besoin d'aller sur l'île cet été. Dans toutes les grandes surfaces, ça coûtera environ 6 euros. J'ai goûté, c'est vraiment un rosé vraiment sympathique. Bon, pas très ambitieux, simple, sur des notes assidues.
Un rosé de soif.
Un rosé de soif, barbecue, qu'on rafraîchit, on met au frigo et on sert ça sur nos barbecues dans les jardins, sera parfait. Et ça sera vraiment, j'ai goûté, la qualité est vraiment régulière. Et enfin, on va pouvoir boire un vin de Corse accessible, de bonne qualité. Voilà, ça s'appelle, c'est un IGP Île de Beauté et le vin s'appelle Île de Rosé.
Île de Rosé à 6 euros la bouteille, ce qui est raisonnable.
On va déguster.
Bonjour messieurs, bienvenue au Bistrouté. Nous avons donc deux suggestions aujourd'hui. On a un carré de porc, si vous voulez, avec une écrasée de pommes de terre à l'accompagnement. Nous avons également la blanquette de veau. Blanquette de veau bio de Paul Bianchi de Villano. Et ensuite, vous conseillez par exemple le carré d'agneau. Et puis nous avons les farfales bio où on retrouve du veau de Paul Bianchi encore une fois. Donc le veau effiloché avec toute une garniture de légumes, présenté dans un petit cassolet de façon bistrot.
Le Bistrotel, où c'est certainement l'une des adresses les plus excitantes d'Ajaccio, où nous étions donc il y a quelques jours, même si alors au premier abord, c'est un peu difficile de vous la vendre cette adresse. On n'est pas sur la route des Sanguinaires, vous savez que le panorama sur la Grande Bleue, on serait plutôt sur le parking d'une zone commerciale. Mais au moins, attention Elvira, on sait pourquoi les Ajacciens y vont, et d'ailleurs pas que les Ajacciens, cette adresse a beaucoup de succès. Ils y vont pour le joli décor de bistrot, façon banquette, comptoir, carreaux de ciment, grande terrasse de 40 couverts. Et on y va surtout pour la cuisine de David Metzak. Oui, vous en avez certainement entendu parler. Antoine, 39 ans, un cuisinier hyper rigoureux sur le sourcing de ses produits, qui sont corses et bio à environ 80%. Il est très attentif aussi au rapport qualité-prix. Et qu'est-ce que David Metzak nous a préparé ? C'est son petit frère Ludovic qui est au service. David.
Alors nous avons ici la blanquette de veau bio, si vous voulez, avec les légumes de printemps de Sébastien Monard et de Tavir. Et nous avons donc l'agneau bio pour vous, monsieur. Agneau bio de Mameli de Sarola, avec une petite écrasée pomme de terre à l'accompagnement, un petit salade verte.
Et voilà, et pour moi c'était une généreuse blanquette. Alors la blanquette idéale, qui arrive dans sa cocotte en fonte avec une sauce exemplaire, généreusement crémée, bien nappante, il y avait une petite touche de citron, et les légumes bio de Sébastien Bonnard d'Y a ta verre. C'est des oignons gros lots, des poireaux, des carottes, la viande était bio, corse, confite, goûteuse, elle s'évanouit sur la fourchette. C'était franchement formidable. Je suis allé m'attabler là-bas avec Jean-Antoine Ottavi. C'est un gourmet corse très pointu sur la gastronomie insulaire. Et lui, il a jeté son dévolu sur les côtelettes d'agneau corse. Comment ça se passe dans son assiette?
François Régis, très très bien. La chair est fendante, elle exhale des saveurs qui sont terribles. Là, on est chez Mireille Mameil, donc productrice d'agneau corse. La cuisson est respectée, elle est rosée. C'est servi avec une petite purée fondante, sans doute à la binge, parce que bon, il y a quand même du goût du corps. Tout ceci accompagné avec un petit jus réduit à la limite du sirupeux qui concentre tous les sucres. C'est vraiment la signature du chef.
Et l'autre signature du chef, ce sont les desserts. Attention Elvira, ouvrez vos écoutilles. David Mezzacu est très réputé pour ses gâteaux, dignes des meilleures pâtisseries parisiennes. On s'est tout simplement jeté dessus.
Alors, messieurs, vous allez déguster trois desserts. Donc, nous avons un éclair à la noisette, une crème pâtissière à la noisette de Cervione, petite crème fouettée dessus. Vous avez une tarte ananas clémentine avec confit de clémentine et meringue italienne dessus. Et enfin, nous avons donc un magnum, c'est un trompe-l'œil, hein, avec chocolat noir et chocolat blanc mêlés et crémeux à la framboise.
Alors, il a peur Antoine là tout d'un coup. Non, il ne parlait pas du magnum, la glace industrielle évidemment. C'était une réinterprétation artisanale, splendide, avec une coque de chocolat blanc, un cœur de chocolat au lait et un crémeux framboise.
Et l'éclair à la noisette de Cervione alors?
Dingue.
Ben oui.
Entre l'éclair et le Paris-Brest. Non mais vraiment merveilleux. Pourquoi vous ne m'avez pas accompagné ce jour-là? Vous aviez mieux à faire, je crois.
On buvait un coup avec Antoine.
J'avais vignoble.
Et Elvira était en train de croquer des canistrelles, en fait. Je vous encourage vivement à aller visiter le Bistrotello de David Mezzacqui et de ses frères Jean-Pierre et Ludovic, boulevard Louis Campi à Ajaccio. C'est fermé le mercredi soir et le dimanche. Et quand vous passez au Bistrotello, un salude de la part dont on va déguster.
Je sais, je sais. I love you. I love you. Il y a de la rumba dans l'air, le smoking de travers. Je te suis pas dans cette galère, ta vie tu peux pas la refaire. Tu cherches des morceaux d'hier, pépère, dans des gravats d'avant-guerre. Casino, c'est qu'un tas de pierres. Ta vie, tu peux pas la refaire. Branche un peu tes écouteurs par ici. La mer est déjà repartie. Le vieux casino démoli, c'est fini. Y'a de la rumba dans l'air, le smoking de travers. Je te suis pas dans cette galère, ta vie tu peux pas la refaire. Tu cherches des morceaux d'hier, pépère, dans des gravats d'avant-guerre. Le casino c'est qu'un tas de pierres, ta vie tu peux pas la refaire. Fermez les yeux des grandes fibres marines, tout à languit pour nuit de Chine, sur les banquettes de Moleskine, des limousines. Écoutez l'histoire entre Trouville et Dinard, d'allons baiser fini, c'est trop tard. Les mains sur le satin, caresse du matin.
chagrin. Y'a de la rumba dans l'air, le smoking travers. Je suis pas dans cette galère, ta vie tu peux pas la refaire.
Y'a de la rumba dans l'air, une reprise de Catherine, et y'a de la rhubarbe dans l'air en ce dimanche.
Pour dire que la droite n'avait passé aucun accord avec la gauche, Nicolas Sarkozy sur France 2 a usé d'une curieuse métaphore potagère.
Non, c'est pas comme ça que ça se passe, c'est pas « passe-moi la salade, je t'envoie la rhubarbe ».
Et oui, on n'a jamais autant parlé rhubarbe et politique qu'en 2015, quand Nicolas Sarkozy s'est un peu pris les pieds dans le tapis en s'aventurant dans le potager. Vous vous souvenez ou pas de cette petite polémique gentillette ?
Oui.
Passe-moi la salade, je t'envoie la rhubarbe. C'était une façon un peu de dénoncer des petits arrangements entre amis. Vous connaissez ou pas ? Je vais faire mon érudit alors que
normalement, ça devrait être un Alexandre.
Voilà.
C'est ça.
Alors Antoine, vous connaissez la vraie expression normalement ?
Molière.
Oui.
Oui.
Et c'est ?
Passe-moi la rhubarbe, je...
Vous passerez le séné, absolument. Passe-moi la rhubarbe, je vous passerai le séné de Molière. Et ça veut tout simplement dire que c'était en fait deux laxatifs, deux purgatifs. Et c'est une façon de dire, bah finalement, on s'échange des bons procédés entre amis. Vous connaissiez les vertus purgatives de la rhubarbe, Mathieu Vermès ?
Oui, tout à fait. Oui. Ceux qui en mangent énormément, évidemment, que ça poserait des problèmes. Mais bon, la rhubarbe, il faut toujours la consommer comme toute bonne chose avec modération.
C'est vrai que le statut de la rhubarbe, il était davantage thérapeutique il y a quelque temps que culinaire. Et on a quand même le sentiment dans notre patrimoine gastronomique français que la rhubarbe n'a jamais vraiment acquis ses lettres de noblesse gastronomique. Vous êtes d'accord ou pas ?
Oui, mais elle est en train de le réaliser. Je pense que la rhubarbe est vraiment d'actualité. On peut l'utiliser sous différentes formes, mais c'est vraiment devenu quelque chose de très sympa et très goûteux.
Comment vous expliquez, Kedabla, qu'on se méfie un peu de la rhubarbe ?
Déjà, ça a une apparence un peu étrange.
Quoi ? Qu'est-ce que vous avez contre... Moi, je trouve ça joli, avec au contraire...
Un goût un peu difficile.
Ses couleurs vives.
Ouais, un statut intermédiaire entre le légume et... Enfin, c'est un légume, mais c'est utilisé... Bon, oui, voilà.
Plutôt comme un fruit ?
Ouais, puisque on en fait des tartes et des compotes. Je sais pas, c'est un côté... pour moi, c'est vraiment très anglo-saxon. Et puis bon, je crois que c'est aussi assez scandinave. Mais du coup, comme c'est comme plein de choses anglo-saxonnes, ça nous semble un peu...
Exotique ?
Étrange et exotique et pas forcément très bon. Et pas... forcément très joli aussi quand c'est cuit, enfin ben voilà. Et puis bon, on finit par s'y intéresser et puis se dire qu'en fait c'est bien comme...
Et ben on va le voir d'ailleurs avec vous, là vous nous en avez apporté des preuves vivantes que c'est un magnifique ingrédient en cuisine, surtout en cette saison. On est en pleine saison hein, Mathieu Vermès.
Oui, tout à fait, c'est la pleine saison de cueillette avec différentes variétés hein. On a cueilli la précoce il y a un mois environ et puis maintenant c'est la tardive avec des variétés comme de la Goliath, la géante que je viens de vous montrer et puis la framboise rouge également.
Vous êtes producteur de rhubarbe au nord de la France, enfin très exactement dans la Somme.
Oui, une trentaine de kilomètres de la baie de Somme, à Saint-Riquier.
Oui.
Et en fait, on est producteur de rhubarbe et également pépiniériste, et je dirais presque pépinière de rhubarbe, puisqu'on fait énormément de plants en pot, en racines nues, avec principalement une dizaine de variétés, mais on en possède une centaine différentes.
La saison s'étale vraiment de quand à quand ? Des variétés les plus précoces aux plus tardives, ça couvre quel spectre dans le calendrier ?
Ben en fait, chez nous, disons que ça, c'est plutôt, je dirais, d'avril à septembre. Mais par exemple, en Angleterre ou sûrement en Écosse également, ils l'utilisent en forçage. Donc, ils forcent la rhubarbe avec des cloches en terre cuite. Et puis, pratiquement, ils peuvent en manger, je dirais, de janvier à octobre.
Comment on s'y prend pour forcer la culture de la rhubarbe en Angleterre ? Vous dites, on la fait pousser sous cloche un peu comme des endives ?
Voilà, comme de l'endive. En fait, dès janvier,
pour apporter de la chaleur.
Voilà, vous posez votre cloche sur votre pied de rhubarbe et grâce aux rayons du soleil, parfois, bon, en Angleterre, c'est pas toujours vrai, mais et donc la terre cuite absorbe la chaleur et la rhubarbe pousse en fait avec cette chaleur et en fait, comme elle n'a pas de lumière, elle est très tendre. Elle ressemble à de l'endive, en fait, presque.
Kedabla l'évoquait à l'instant, légumes, fruits, on ne sait pas très bien, on n'est pas très au clair sur son identité botanique. Est-ce que vous pouvez nous éclairer un peu ? La rhubarbe, c'est quelle plante ? Ça vient d'où ?
Donc, en fait, la rhubarbe, ça vient principalement d'Asie.
Oui.
Les Anglais l'ont ramené à une époque et ils en sont très, très friands maintenant.
C'est ça. Hein.
Le nom latin, c'est Rheum. Hein. Il y a donc Rheum rabarbarum pour les alimentaires, les variétés alimentaires, et après... Réum palmatum pour tout ce qui est, je dirais, rhubarbe décorative, puisqu'en fait, on a alimentaire et décorative et aussi botanique.
Il y a aussi donc des variétés de rhubarbe ornementales pour décorer son jardin, en quelque sorte.
Des variétés à feuillage très, très découpé, avec parfois la face inférieure une couleur très, très rouge, comme vous pouvez le voir sur la rhubarbe qui est juste devant vous.
Oui.
Feuillage très, très, très dentelé. En fait, elle ne se mange pas.
Celle-ci ne se mange pas, elle est uniquement, elle pousse pour des raisons décoratives.
Voilà, vous la mettez au fond du jardin, elle fleurit également, soit blanc, soit rouge, et il faut lui consacrer quand même 1 m², 1 m² 50.
C'est la grande famille des polygonacées,
voilà.
C'est ça, hein. Qu'est la black ? Lorsque vous êtes devant l'étal du marché et que vous avez ces grandes tiges de couleur, comment on en définit la couleur d'ailleurs ? Verte avec des reflets
jolis dégradés de rose à vert, effectivement, et qu'on choisit bien ferme, pas abîmé, ça paraît. Et puis, bon, plutôt fin, même si, enfin, là, les tiges qui sont là sont assez, assez larges, et je pense que ça dépend plutôt de la fraîcheur que vraiment de la taille, mais voilà. Et puis je crois que plus c'est rouge, plus il y a de rouge, plus c'est sucré. Justement, la rhubarbe forcée, la
force
rhubarbe.
Plus il y a de la couleur, plus c'est sucré.
Complètement. Ouais, en fait, plus c'est vert, plus c'est acide. Et en fait, vous voyez par cette tige,
tige
de Valentine,
oui,
qui est complètement, la chair est complètement rouge. Et là, c'est très doux.
Oui, c'est pas juste l'enveloppe externe. C'est que quand on casse le bout, on voit qu'elle est complètement rouge à l'intérieur.
C'est ça.
Oui. Parce qu'en fait, rouge extérieur ne signifie pas qu'elle sera très douce. C'est surtout la chair à l'intérieur.
Qu'est la blague ? On a fait appel à notre ami Alain Cohen, sourceur de légumes, qui lui-même a fait appel à un formidable maraîcher qui cultive de la rhubarbe. Peut-être le connaissez-vous d'ailleurs, Mathieu Vermès. Il s'appelle Laurent Berrurier, il est dans le Val d'Oise. Il fait alors le chou de Pontoise, les asperges d'Argenteuil, etc. Il fait aussi de la rhubarbe.
Oui,
et c'est cette rhubarbe que vous avez reçue.
Oui. Elle était très bonne.
Elle était très bonne.
Oh, elle est très bonne.
Et parce que vous m'avez même dit que vous pouviez la garder plusieurs jours et elle se conservait bien.
Elle n'était pas du tout abîmée, elle s'est gardée. Facilement, elle devait être très fraîche parce que encore hier, il en restait quelques tiges qui étaient encore tout à fait utilisables.
Et on reproche souvent à la rhubarbe d'avoir des fils, d'être fibreuse. Est-ce qu'il faut, lorsqu'on a une tige, qu'est-ce qu'on fait ? On est quand même un peu obligé d'enlever cette petite peau filandreuse ?
Alors moi, il me semble que c'est pas indispensable. Ça dépend de la fraîcheur et de la
la maturité.
De la période dans la saison aussi. J'ai l'impression que quand on avance dans la saison, peut-être qu'on a des tiges un peu qui ont développé des fibres. Et j'ai cru comprendre que ça dépendait aussi de la méthode de culture, enfin que si elles étaient bien cultivées avec un apport correct en eau, avec une bonne terre, elles n'avaient pas développé cette enveloppe un peu rigide.
C'est le cas ou pas ?
Oui, complètement. On parlait tout à l'heure du forçage de la rhubarbe en Angleterre. Elle est très tendre, en fait, quand on la force. Mais en fait, il faut la cueillir toujours à point. C'est-à-dire, dès que vous avez des très belles tiges, ne pas hésiter à, je dirais même presque, vider le pied. Hein, même si vous en avez un petit peu trop pour le mettre, le surplus à la limite au congélateur. Mais il faut faire 2, 3, 4 coupes par pied par an. Mais ne pas prendre 2 tiges pour faire une compote et à 2 mois plus tard, reprendre 2 autres tiges qui seront beaucoup plus dures et beaucoup plus fibreuses.
La rhubarbe que vous livrez à certains grands chefs, alors il y a le pâtissier Pierre Hermé, il y a Claire Damont qui est une pâtissière qui fait beaucoup parler d'elle à Paris. Il y a également la chef 3 étoiles Anne-Sophie Pic à Valence, je crois. Ouais. Ils sont assurés de recevoir une rhubarbe sans fil.
Ah oui, mais en fait, nous, on essaie de donner le meilleur de nous-mêmes et du champ, hein, différentes variétés. Et c'est toujours très, très frais. Mais la rhubarbe, elle se conserve, à partir du moment où elle est fraîche, elle se conserve au moins 8 jours.
Allez, les mains dans la cuisine. Première question, est-ce qu'on peut la manger crue, cette rhubarbe, Kéda ?
Eh ben, Antoine nous disait tout à l'heure que oui, bon, c'est quand même un peu rude, mais bon, cru comme ça.
Vous n'avez pas l'air très convaincu.
Avec
un peu de sucre.
Si, peut-être.
Avec un peu de sucre.
Voilà, ouais,
Antoine,
on
la coupe
en petit
bâtonnet.
En petit bâtonnet, et voilà, quand j'étais enfant dans un jardin, c'était le 4 heures. Et puis, à défendu, on était cachés, personne ne nous voyait, on avait le droit d'arracher derrière le dos du grand-père la tige de rhubarbe et on courait chercher le sucre. Mais ça fait partie de la goutte.
Ah, ça allait bien, il n'y a pas de problème.
Mais bien sûr qu'on en a trop mangé, on a tous eu mal au ventre, ça c'est évident. Mais c'est comme l'endive, c'est intéressant le parallèle, hein. C'est culturel, hein.
Ouais.
Les amers, l'acide, ça prend, enfin, on est très jeune, on peut en avoir une répulsion, hein, on peut détester ça, mais ça nous marque et après on l'adopte et on la cultive, cette culture.
Qui est la blague, vous définiriez comment le goût de la rhubarbe?
Ben ça, c'est quand même difficile. Il y a cette acidité un peu qui attaque la bouche quand même, quelque chose d'un peu violent. Et en même temps, enfin, la rhubarbe forcée qui apparaît dès janvier en Angleterre, ça explique aussi peut-être le goût anglais parce que là, elle est très rose et il y a un côté bonbon et puis quelque chose de comme les fruits rouges, mais qui ne sont pas là en janvier. Donc, je pense que d'avoir ce genre de produit d'une belle couleur et avec donc quand même quand c'est rose, il y a quelque chose qui à la cuisson peut devenir assez floral, enfin ça dépend aussi ce qu'on met avec justement.
Et d'ailleurs un bonbon anglais que les enfants mangent s'appelle le rhubarb and custard.
Ah oui, c'est vrai.
Vous avez raison.
Inspiré de la rhubarbe servie avec la crème anglaise.
Alors vous évoquez la cuisson, allons-y. Première idée spontanément qui vient à l'esprit un peu de tout le monde sans savoir forcément la faire, c'est une compote de rhubarbe. On va commencer comme ça, tout simple.
Oui, c'est d'en faire une compote. Donc on peut faire évidemment dans une casserole que je conseillerais de prendre plutôt large pour pas avoir des couches trop, enfin des cuissons différenciées selon dessous, dessus.
Pas trop d'étages.
Oui, c'est ça, pas trop d'étages. Et puis pas trop de liquide non plus. En fait, de mettre par exemple un jus d'orange dans, je sais pas.
Orange rhubarbe.
Ouais, ça marche assez bien dans une livre de rhubarbe. Et puis après du sucre. Alors là, c'est vraiment, ben, ça dépend comment elle est, ça dépend de son goût, mais moi je dirais un ordre d'idée de pour une livre 500 grammes, commencer à 100 grammes de sucre, bon, ben, un truc comme ça, mais ça peut être beaucoup plus, ça peut être moins.
Ça dépend du niveau d'acidité de la rhubarbe en fait.
C'est ça, et puis de ce qu'on aime en fait aussi.
Bien sûr.
Et pas trop de liquide parce que
la rhubarbe. Et pas trop de liquide parce que ça en donne et ça risque, ça peut très vite, il y a vraiment ce risque de trop cuire, ça peut très vite devenir une bouillie et c'est un peu dommage de perdre complètement la mâche. Et alors, une solution que je trouve bonne pour faire une compote, c'est de la faire au four, en fait.
Oui, incroyable.
Où là, on coupe la rhubarbe en tronçons, on la
Justement,
met dans un plat à four.
Quel que soit casserole ou four, les tronçons, c'est à peu près quelle taille? Quelques centimètres?
1 centimètre, 2 centimètres, voilà. Mmh. Mais même si c'est un peu plus long, après, ça va se défaire. Ça dépend aussi de ce qu'on veut en faire après, et voilà.
Alors, épluchée ou pas épluchée, hein. Là, on a compris que votre rhubarbe à vous, elle n'était pas fibreuse.
Ouais, elle était...
Donc tel quel.
Oui, je pense que quand on la coupe en tronçons, on le sent en fait. Si le couteau, si on sent que ça accroche sur des fils, eh ben on peut tirer ça et voilà. Et si ça se coupe très facilement, on a un bon couteau et ça passe comme ça. Je pense qu'on le voit qu'en fait ça va. Et donc au four, c'est bien parce qu'on met ça dans un plat avec le sucre, un petit là pour le coup un petit zeste d'orange par exemple. Même pour ceux qui ont envie d'un truc plus original avec du gingembre, ça peut marcher. Mais bon, c'est plus
gingembre frais.
Voilà, un petit peu râpé ou même confit. Et puis on couvre d'un papier alu et on met ça au four. Ça garde l'humidité du coup.
Donc sans humidité supplémentaire.
Ouais, au four, c'est pas nécessaire.
C'est la rhubarbe qui va confire dans sa propre eau. Hein.
C'est ça, ça fait vraiment un jus qui coule, qui avec le sucre, ça fait couler un jus. Donc on met ça à peu près 20-25 minutes à 180 degrés à peu près. Et là, on obtient une compote qui n'a pas le risque d'être trop molle, trop défaite, mais qui est quand même cuite.
Vous validez cette recette ou pas, Mathieu Vermette?
Tout à fait.
Vous faites comment à la maison pour une marmelade?
Donc moi, c'est plutôt à la casserole. Hein, oui. Mais très rapidement, 2-3 minutes. Oui, voilà. Et puis...
Il faut que la rhubarbe garde encore de la mâche, de la texture sous la dent.
Oui, mais bon, c'est vrai que ça va assez vite. Hein, si vous faites plus de 2 à 3 minutes, effectivement, ça devient plutôt de la bouillie, mais... Sur du pain au beurre avec un petit café, c'est adorable.
Avec une compote de rhubarbe, moi je pense juste à un petit geste supplémentaire qui permet de transformer le dessert et de s'orienter vers un crumble.
Oui, bah, à partir du moment où on a cette compote faite n'importe comment, c'est la matière pour faire ce qu'on veut en fait, des tartes. Et effectivement, un crumble...
Mais vous avez un appareil à crumble,
tout bête,
un biscuit à crumble qui vaut la peine.
Ouais, que j'utilise pour les pommes. Donc là, pour le coup, peut-être qu'on le fera un petit peu plus sucré avec farine, beurre. Moi, j'aime bien rajouter un jaune d'œuf. Une fois qu'on a émietté, un jaune d'œuf à la fourchette, ça donne une petite richesse qui justement avec des produits comme la rhubarbe marche bien.
Oui.
Et on peut aussi ajouter des amandes, soit effilées, soit en poudre, une ou deux cuillères à soupe Pour
le jaune d'œuf change la texture, ça fait quoi exactement le
jaune d'œuf ? On s'en rend pas vraiment compte, mais ça se mélange comme le beurre avec les miettes, ça fait un peu les clusters, les petits. Voilà,
un peu comme du granola, quoi.
Un petit peu, ouais.
Vous vous souvenez même pas du crumble de. On l'avait goûté ensemble, le crumble aux pommes de Kedah Black, qui était vraiment un truc.
Ce n'était pas cette émission, François.
Incroyable, on peut retrouver évidemment la recette de crumble à la rhubarbe sur franceinter.fr, à la page On va déguster. On se retrouve dans un instant pour continuer à évoquer évidemment l'aventure de cette plante potagère dans les champs de Mathieu Vermès et dans les casseroles de Kedah Black. And a stupor, sitting on the side of the road, ain't got an honest feeling in my bones. Felt like a fever, came on like a storm. What I felt, it can't be helped no more. Get up, 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 up. If you want my love. Get up, 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 up. If you want my love. Fire. Fire. Bless my soul, that's the way. Swift as a river, with a head as hard as stone. What's hard as hell, the same will leave you cold. Now I'm a believer, my word's as good as gold. Walking a fine line might not lead to home. Get up, 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 up. If you want my love. Get up, 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 up. If you want my love. Fire. Fire. Bless my soul, that's the way.
C'est dimanche sur France Inter. On va déguster.
Bess Ditto, pour être sûr d'être bien réveillé, ça met la pêche.
C'est
non
bien ça. Hein
ah ouais. Oui, c'est comme
on
croque dans la rhubarbe.
En ce dimanche matin avec le titre Fire, la rhubarbe justement met le feu sur le plateau dont on va déguster aujourd'hui avec nos deux invités. Quelques questions d'ailleurs de nos auditeurs au sujet de la rhubarbe. Il paraît que sa feuille est toxique, vrai ou faux?
Oui, tout à fait. Il faut éviter surtout ne pas manger la feuille.
Ah oui, qu'est-ce qu'on en fait?
On vous laisse
compost.
Oui,
on la jette.
Ou vous la laissez autour du pied, hein, ça vous fera un paillage, ça évitera les mauvaises herbes de pousser.
Mais on ne consomme que la tige. Il n'y a que la tige qui est intéressante. Même le rhizome, la racine n'est pas intéressante.
Non, elle est aussi intéressante pour tout ce qui est un peu médicinal et puis pour le thym, on l'utilise en.
En décoction ?
En cosmétique.
En cosmétique, voilà.
D'accord. On utilise la rhubarbe en cosmétique. Ouais. Justement, les valeurs nutritionnelles, on a des questions à ce sujet. Il y a certaines personnes qui se méfient, comme elle dit, je plaisante, qui se méfient de la rhubarbe en raison de sa teneur très élevée en acide quoi ?
Oxalique.
C'est ça.
Ben oui, c'est très mauvais quand on a des calculs rénaux.
Oh, c'est très mauvais.
Enfin, c'est très mauvais, faut pas en abuser.
C'est comme les épinards, l'oseille.
Il faut pas abuser des bonnes choses, mais non. Principalement en été, disons qu'elle a une grosse teneur en acide oxalique en été, parce qu'en fait, il y a beaucoup moins fraîche, beaucoup moins d'eau pour la plante.
C'est ça.
Et il y a une teneur plus importante.
Mais rassurez-vous, Elvira, rhubarbe, source de vitamines, de fibres, d'antioxydants, c'est absolument magnifique, c'est un légume tout à fait intéressant. D'ailleurs, il paraît que c'est une plante potagère qui n'est pas très demandeuse en termes d'intrants chimiques, dans le sens où elle est assez rustique, qu'elle est attaquée par assez peu de maladies, en tout cas dans vos champs, c'est tout à fait naturel comme culture.
Voilà, en fait, on n'utilise pas de fongicide, pas d'insecticide, hein, puisqu'en fait, elle est parfois attaquée par des mulots, par des petits insectes, mais bon, principalement, on ne traite pas de toute façon la rhubarbe, il faut la conserver telle qu'elle.
Donc, produit naturel.
Voilà.
Sans risque de résidus de pesticides. Est-ce que vous avez l'agrément agriculture biologique?
Non, on n'est pas encore, mais ça va venir. On est en agriculture raisonnée.
D'accord. Et vous allez bientôt vous convertir au bio?
Voilà. J'ai un fils qui voudrait s'installer sur la rhubarbe et sur les plantes maraîchères en bio.
Et vous faites même du jus de rhubarbe?
Voilà, c'est les dernières nouveautés.
Couleur rose bonbon.
Ah oui, c'est bon. Ouais, c'est
boisson d'été. Hein,
c'est très bon.
Il faut servir très fraîche.
Bon. Ouais, il faut la boire très fraîche.
C'est très peu sucré, c'est délicieux.
Il faut la sortir du frigo et c'est vraiment excellent.
Il n'y a rien d'autre que de la rhubarbe?
Non, non. En fait, celle-ci est faite avec la fameuse Valentine qui a la chair très rouge. Très fraîche, on a l'impression que c'est autre chose que de la rhubarbe.
C'est un petit côté infusion d'hibiscus, jus d'hibiscus.
C'est vrai, bizarre.
Entre le, tout à fait, oui, avec un soupçon de groseille aussi.
Ah, exactement.
Un soupçon de groseille, oui, très bien vu. Petite question pour Keda, est-ce que la rhubarbe perd sa couleur à la cuisson?
Pas nécessairement, non. Là, celle que j'ai utilisée était plutôt verte. Bah, moins quand on la rôtit, en fait. Moins au four.
C'est ça. Au four, ça préserve aussi
sa
couleur.
Non, on peut faire des jolies tartes avec des jolies camailles de rose.
Eh bien, justement, on va se retrouver dans un instant pour une tarte superbe que nous a concoctée Keda Black. Mais juste avant, c'est le martyr d'Elvira Barçon avec la rhubarbe.
Avec une fourchette, des baguettes et même avec les doigts, on va déguster sur France Inter.
Elle vous a fait cauchemarder, hein, cette rhubarbe, c'est ça, Elvira?
Arrêtez, donc le martyr, c'est un peu exagéré. Hein. Je vais avoir des difficultés avec ma mère, là.
Bah oui,
j'espère qu'elle ne nous écoute pas.
Incident diplomatique dans la famille maçon.
C'est ça. La rhubarbe, ou rabarber, comme on dit en suédois.
Comment?
Rabarber.
Ça fait un peu barbare.
D'ailleurs,
c'est l'étymologie de rhubarbe,
oui,
je crois.
Oui,
tige barbare.
Tige barbare.
Et surtout, on dirait un peu la racine du mot rébarbatif, non?
Ah, c'est rubarbatif, très bien.
Mais après vérification, le mot rébarbatif vient du mot rebarber, qui veut dire faire face en vieux français.
Pas mal.
Alors la rhubarbe en compote, c'est justement le dessert auquel j'ai dû faire face toute mon enfance et mon adolescence. À partir du mois d'avril à peu près, je dirais. Voilà, toute ma jeunesse en quelque
Vous
sorte.
Vous avez été nourrie à la rhubarbe.
Et donc ma mère, effectivement, étant suédoise, la rhubarbe poussant à peu près partout dans les potagers, les jardins, bah, comme dans votre enfance, Antoine, et comme vous, Keda, en Écosse.
Ah, donc il n'y a pas que les pays anglo-saxons?
Non, bien sûr, les pays scandinaves aussi. Le climat est propice et sont effectivement des terroirs ou des territoires où tout le monde a ça au fond du jardin. Donc il est évident que l'on prépare une confiture, même pas tellement confiture, plutôt une compote. Évidemment, ma mère en faisait des kilos parce qu'on peut comprendre, je pense qu'elle l'épluchait beaucoup. Et que cette année de l'épluchage, on préfère la subir en une fois et faire de gros volumes que
de
voir la faire semaine
donc
après semaine.
Donc c'était 15 jours de rhubarbe.
Voilà, donc elle préparait de la compote de rhubarbe qu'elle congelait et à laquelle on avait le droit jusqu'au
31 décembre.
On n'était jamais
c'est la bûche de Noël à la rhubarbe.
Il n'y avait jamais de pénurie de rhubarbe chez nous. Voilà. Alors il ne faut pas se méprendre, j'adore la rhubarbe, qui a pour moi le goût de l'enfance et le goût de la Suède où je ne vivais pas. Parfois, on avait le droit à un petit grain de folie dans la compote de rhubarbe de ma mère, qui la faisait à la casserole et non pas au four. Elle y jetait une poignée de fraises, non pas à la fin de la cuisson, mais même quand la compote était prête, mais qu'elle était encore très chaude, elle y jetait comme ça une poignée de fraises. Alors François-Régis, quand vous m'avez demandé de pencher sur le sujet, eh ben, je me suis ruée sur la presse culinaire suédoise et les quelques livres de recettes que je pouvais avoir à la maison. Première difficulté, trouver de la rhubarbe.
Oui.
Alors d'abord, j'ai fait le tour des moyennes surfaces et des supermarchés à côté de la maison.
Oui.
Rien du tout. Chou blanc. Heureusement, sur le coup de 14h hier, je suis tombée sur un étal bio d'un maraîcher qui était en remballage tardif. Et là, j'ai pu lui acheter quelques tiges un petit peu racornies, je dois dire. J'imagine que la tige racornie, c'est un peu le test qui permettrait de dire qu'on ne doit pas acheter cette rhubarbe, en principe.
Voilà. Vous vous souvenez d'ailleurs, par parenthèse, Elvira, le prix au kilo de la rhubarbe sur un étal parisien?
Non, je pense que vous allez m'aider parce que je me souviens plus très bien.
C'est quoi la fourchette d'un prix raisonnable à Paris et en région?
Mais disons, je dirais en région, ce serait plutôt 2 euros à 3 euros.
Il y a
mais
Paris, le quadruple.
Je pense qu'à Paris,
5 euros,
c'est.
Je pense, oui, 5
moi je l'ai vu à 5 euros.
Ça me revient, c'était 5 euros et quelques.
Donc on peut parler du simple au double. Hein.
Voilà, après ça dépend des moments. Quand elle est précoce, au mois d'avril, elle est très très chère. Et au mois de mai-juin, évidemment que les prix baissent.
Sachant qu'un kilo de rhubarbe, ça doit faire quoi? Quelques tiges, en fait, Keda Black
un kilo, c'est... Non, c'est peut-être 12. Enfin, ça dépend.
Ah oui, un peu plus,
ça, ça dépend des variétés.
Bah, c'est sûr que si on prend cette énorme variété...
Celle-ci, elle fait hein, la Goliath, donc ah, là, 300 grammes à 500 grammes par tige, voire parfois un kilo.
Là, c'est carrément un gourdin que vous avez, effectivement.
Et la Valentine, c'est plutôt du 50 grammes, 100 grammes la tige.
La tige, d'accord. Voilà. Elvira.
Donc le répertoire sucré autour de la rhubarbe en Suède est assez varié.
Oui.
J'ai eu l'embarras du choix entre la rhubarbe torta, qui peut se traduire par espèce de tourte tarte à la rhubarbe, qui en général est nappée d'une crème quelconque.
La rhubarbe torta.
Rhubarbe torta. Le rhubarbe smoothie. Voilà, ça va sans dire. La rhubarbe pie, qui est un genre de qui s'appelle pie mais qui est en fait un genre de crumble.
Oui.
Ou le rhubarbe corca. Corca, ça veut dire gâteau.
Ah, je me souviens, corca.
Voilà, comme mieux que Peppa corca. Je vous ai
exactement.
Déjà servi. Voilà,
voilà.
Exactement. Vous commencez à maîtriser, c'est bien. Et c'est un genre de 4 quarts à la rhubarbe.
C'est celui que nous a apporté.
Voilà, exactement.
Qui est super bon.
Le principe est très simple. On découpe la rhubarbe en tronçons.
Oui.
Que l'on réserve. Mm-hmm. On fait un mélange sucre-beurre dans le fond d'un moule à manquer. Mm-hmm. Qu'on passe un petit peu au four. Ensuite, on prépare l'appareil de ce rhubarbe croca. Mm-hmm. Et l'appareil se compose de beurre, de sucre roux, de cassonade, de 3 œufs, de farine, d'un peu de lait. On met toujours un peu de lait dans les gâteaux scandinaves. De vanille, si on a, un peu de levure chimique. On mélange ces ingrédients. On dispose les dés de rhubarbe dans le fond du moule à manquer. Alors moi, j'ai pris une liberté avec la recette qui n'est pas forcément très concluante. Mais oui, mais elle ne m'inspirait pas tout à fait confiance. Donc je me suis dit, les dés de rhubarbe vont être trop durs, donc je vais quand même les faire revenir un tout petit peu dans le caramel. Résultat des courses, ils sont un peu trop mous.
Ah non, moi j'ai
donc vraiment,
bon.
On les réserve sans du tout les toucher avant de commencer la cuisson.
D'accord.
Donc on a cette espèce de petit caramel au fond du moule. Mm-hmm. On y dispose les 500 grammes de rhubarbe épluché pelé. 500 grammes chez moi, c'était, je pense, ça m'a fait 5-6 tiges.
En tronçon de 2 cm.
2 cm à peu près.
D'accord, 5-6
tiges. On nappe de cet appareil que je viens de vous décrire et on enfourne pour 35 minutes
mais
à
180. C'est super
degrés.
Bien.
Alors, je craignais un peu qu'on soit dans quelque chose qui soit de l'ordre du 4 quarts, du flan ou du clafoutis, qui n'a rien de suédois. On est un peu dans un hybride 4 quarts clafoutis, voilà.
Mais moi, je trouve ça vraiment épatant. Et il y a par contre, très franchement, la texture et le goût d'un 4 quarts aussi.
Oui, c'est ça.
Non, je trouve ça délicieux.
Vous validez?
Bon, bah. Vous aimez ou pas?
C'est un upside down cake, oui.
C'est exactement ça.
Un quoi?
Un upside down cake. Parce que
gâteau renversé.
On le retourne.
Voilà c'est ça. Ah oui, okay. Évidemment, on le retourne pour le service, pour que la rhubarbe soit face dessus. À l'air, entre guillemets.
C'est ça. Kedablak, vous aviez la parole. Merci beaucoup. Elle dira d'ailleurs, la recette de votre maman se retrouve sur notre site internet, j'imagine. Vous nous redonnez le nom juste?
Rhubarbe croca.
Rhubarbe croca. Kedablak, passons à une tarte à la rhubarbe. Vous nous avez apporté un petit monument meringué qu'on a goûté. On est tous raides de cette tarte. Elle est franchement réussie.
Ben, la meringue, oui, s'impose. Ben, on y pense naturellement avec l'acidité. Donc,
comme pour une tarte au citron.
Voilà, il y a plein de tartes possibles à faire avec de la rhubarbe et ça marche bien avec l'amande, les crèmes d'amande, les choses comme ça. Mm-hmm. Et puis là, bon bah c'est avec de la meringue. Voilà,
enfin voilà, c'est pas si simple. Non, parce qu'il y a trois étapes globalement.
Oui, il y a trois étapes. Il faut faire une pâte.
Ouais.
Là, qui est plutôt une pâte brisée, enfin en fait avec le beurre très froid, en fait presque congelé, qu'on râpe dans la farine.
Très important que le beurre soit très froid.
Ouais, c'est ça. Et puis ensuite, on lit avec. Là, il y a un petit peu de sucre pour voilà parce que c'est un gâteau et puis puis une pâte qu'il faut lier aussi avec de l'eau bien fraîche en fait c'est ça qui fait qu'on a bon voilà enfin ça c'est général sur la pâte ensuite là la rhubarbe est cuite dans une casserole enfin comme vous disiez tout à l'heure très brièvement enfin c'est de l'ordre de 2
minutes
avec un petit jus d'orange pour le coup
et toujours avec cette proportion 100 grammes de sucre 500 grammes de rhubarbe à peu près
non là il y a pas de sucre
en fait. Vous gardez la fraîcheur.
Ouais, c'est ça, il n'y a pas de sucre. Et en revanche, après, avant de mettre la meringue, on utilise les jaunes d'œufs pour faire un petit mélange avec là un petit peu de sucre, un petit peu de beurre fondu et un petit peu du parce que la rhubarbe relâche un peu de jus, un peu du jus. Pour faire une sorte de mélange qu'on verse une fois qu'on a on pré-cuit le fond de pâte. On met la rhubarbe donc un tout petit peu cuite.
D'accord.
On verse ce petit mélange qui lui sucre la rhubarbe et la
servir un peu de lien.
C'est ça. Donc le jus de cuisson de la rhubarbe avec un peu de jaune d'œuf.
Un peu de jaune d'œuf, un peu de sucre pour
sucrer.
Voilà et un tout petit peu de farine même.
Et vous nappez.
Et ensuite on fait une meringue qui là dans ce cas est assez peu sucrée en fait. C'est une meringue un peu moelleuse mais qu'on saupoudre de sucre avant de l'enfourner pour que pour quand même le dessus soit un petit peu croustillant. Donc c'est plus voilà, c'est plus dans le mou et le doux que dans le fort contraste.
Mais c'est super, voilà.
C'est sublime.
Elle est patente. Il faut préciser quand même pour nos auditeurs qui n'ont pas l'image que votre paille, elle est quand même très épaisse. On n'est pas dans la tarte à la française très fine. Vous prenez un moule quand même assez haut.
Un peu haut.
Vous tapissez donc vous foncez votre moule avec votre pâte.
Voilà, qui vaut mieux pré-cuire parce que comme la rhubarbe a tendance à détremper, il vaut mieux que ce soit bien cuit avant. Et voilà, on fait une couche assez épaisse et une couche assez épaisse de meringue. Même si on peut aussi imaginer une tarte meringuée avec une couche de une pâte sablée, une couche plus fine et puis une meringue plus à l'italienne, plus sucrée.
Moelleuse, plus souple.
Plus sucrée en fait.
Mais moi,
avec un
ça.
Contraste plus fort, c'est autre chose.
Le côté neige, fraîche et ce côté un peu craquant, croustillant de cette meringue très légère, vous aimez ou pas
Elle est excellente.
Mathieu Vermette,
on a vraiment de manger d'aussi bonne. Ouais. Ah bon. Meringuée, c'est le top. Hein.
Ouais, ça marche bien.
Qu'est-ce qu'on boit avec ça? Qu'est-ce qu'on boit avec la rhubarbe? Sacré défi qu'on a lancé à notre chroniqueur vin Antoine Gerbel. Alors, vous êtes bien coincé, Antoine?
Ah, pas tant que ça, en fin de compte. Moi, je trouve très intéressant la rhubarbe. On évoquait tout à l'heure les amers. Et moi, c'est un peu, je travaille sur un peu le même approche, même famille. Et l'acide, c'est très intéressant, l'acidité dans la nourriture. Alors, la rhubarbe, bon, bien évidemment, là, on évoquait principalement les desserts, mais on rappelle que c'est un légume.
On va en parler dans un instant, d'ailleurs, avec Keda.
Il y a une association très intéressante. C'est un peu sous une forme de chutney.
Oui.
Et donc, qu'on peut rapprocher après du foie gras ou des plats de porc, par exemple le porc grillé. Et là, on s'aventure sur des associations très intéressantes. Moi, j'imagine plutôt des vins frais, c'est-à-dire tout à fait dans le droit fil de cette acidité. Donc, on est plutôt au nord de la Loire, ou en altitude. En France, on peut imaginer que le territoire idéal, c'est le nord de la Loire, c'est le Chenin de Loire, par exemple. Et donc, on est, moi, je pense souvent aux janières, les coteaux du Loire. C'est un vin blanc avec une forte acidité, mais avec une acidité avec beaucoup de saveurs. Le Janière, je pense à par exemple au Janière de Jean-Pierre Robineau, les vignes de Langevin, ça c'est idéal pour accompagner encore une fois salé sucré avec et dans le sucré l'acidité de la rhubarbe. Il y a un cépage extraordinaire aussi et là on passe une frontière, on monte en Suisse, on est dans le Valais.
Oui.
Et je pense à la petite arvine du Valais. C'est une petite arvine, rien de petit dans sa présence et dans son goût. C'est un cépage blanc qui a une très haute acidité que les Valaisans récoltent très tardivement, c'est-à-dire qu'on récolte en octobre sur des coteaux impressionnants. Ce sont des jardins suspendu. Il y a une grande dame qui incarne ces vins blancs, c'est Marie-Thérèse Chapaz, qui est très connue. Mais il y a toute une bande de jeunes vignerons qui en ce moment sont en train d'éclore. Je pense à Alexandre de Lettras qui fait justement des petites arvines très très délicates. Et là, ça pourrait très bien aller avec notre rhubarbe tendance salée ou tendance sucrée. C'est vraiment très très délicat et très fin.
Dans le Valais.
Il y a un goût de rhubarbe dans ces vins, il y a un goût de groseille.
Ah oui.
J'évoquais la groseille à macro, cette grosse groseille qui a un peu disparu et qui est très peu sucrée, mais qui a par contre une texture qui peut se rapprocher également de la rhubarbe. Et enfin, alors là, je vous ai mis quelque chose dans votre verre. Est-ce que vous avez goûté?
Mais oui. Moi, je trouve que ça champanise un peu quand même, non?
Ça champanise complètement, effectivement. On a des bulles. Et alors là,
il va nous planter, je suis sûr.
En préparant cette rubrique, je me suis souvenu que le 3 mai, j'ai pris très tôt le matin l'Eurostar et je suis parti en Angleterre et je n'ai pas été jusqu'à
le pays de la rhubarbe.
Je n'ai pas été jusqu'à Saint-Pancras. Je me suis arrêté à la première station d'Ashford, vous savez, cette station qui est très souvent dans la brume quand on prend l'Eurostar le matin. Et là, on est
dans
en plein Kent, exactement, le fameux jardin de l'Angleterre. Et j'ai accompagné un grand monsieur de la Champagne qui s'appelle Tétinger, Pierre-Emmanuel Tétinger,
une
marque de champagne que tout le monde connaît. Et Pierre-Emmanuel Tétinger, avec sa fille Vitalie, ils ont passé un accord avec un Anglais pour constituer un vignoble. Alors vous allez me dire, c'est un peu tendance en ce moment, les vignobles, vous devez en entendre parler, le vignoble anglais.
Oui.
Alors on évoque souvent le réchauffement climatique, on dit on a presque gagné un degré et demi dans ces territoires pour planter de la vigne, mais pas seulement. C'est-à-dire, ce qui est très intéressant, c'est que les Anglais sont en train de constituer un vrai vignoble à part. Bon, on est très loin des centaines de milliers d'hectares français, on est dans les 2-3 000 hectares, mais ça commence déjà à peser. Et dans ce Kent, où on arrache en fin de compte des champs de pommiers, où on plante de la vigne, on plante de la vigne comme en Champagne, du Chardonnay, du Pinot Noir, du Pinot Meunier, et on transforme ce vin blanc, ce petit vin blanc, en effervescent. Alors, l'aventure Tétinger, elle est très récente. On goûtera le premier vin, c'est le domaine Evremont, dans 7 ans seulement. 3 ans pour récolter le raisin, 3 ans pour élaborer le champagne. Mais je vous ai mis dans votre verre ce qui est aujourd'hui la star absolue des vins effervescents anglais, Sparkling Wine, English Sparkling Wine, et c'est la marque Neitimber.
Ah oui.
Neitimber. Donc,
alors, on n'a pas le droit de dire champagne anglais, parce que les champenois sont très jaloux de leur appellation, mais c'est une méthode champenoise. Hein.
Et voilà, on n'a plus le droit d'utiliser d'ailleurs même le terme de méthode champenoise, si vous voulez dire méthode traditionnelle, mais c'est exactement effectivement la même méthode d'élaboration que le champagne. Et alors, Neitimber, c'est vraiment le précurseur. Ils ont mis plus de 15 ans à régler cette production de vin. Alors, ce n'est pas un champagne. Quand on est amateur de champagne, quand on goûte Neitimber, on ne le compare pas. On a un vin effervescent, mais comme si vous compariez tous les vins rouges avec les vins rouges. Tous les vins effervescents ont des goûts différents et ça s'apprivoise. On ne goûte pas un cava ou un prosecco comme un champagne. Eh ben, le vin effervescent anglais est en train d'exploser. Moi, je trouve cette bulle très, très délicate. Oui. Il y a des notes. Et alors là, j'imagine, mais moi, je trouve de la rhubarbe.
Oui.
Là, le vin réchauffe un tout petit peu dans le verre. La groseille aussi très, très marquée. Les fruits rouges aussi, on est vraiment. Et c'est délicat. C'est
très. Des notes acidulées, ouais.
Des notes très acidulées. Et encore une fois, l'acidité sert de support de saveur. Alors, ça coûte un petit peu cher, vous savez. Que bon, on produit pas avec la manœuvre en Angleterre comme on produit, on va dire, un peu dans le sud de l'Europe. Ça coûte 47 euros la bouteille.
Ah, quand même, ils s'embêtent pas les Anglais.
Voilà, c'est distribué par Vin du Monde, qui est le grand importateur de vins de qualité aujourd'hui en France. Vous trouvez ça sur internet, chez Lavinia notamment. Mais disons que pour 47 euros, qu'on a envie justement de montrer à des amis le style différent des effervescents, on cache bien évidemment la bouteille et on met un champagne.
Et on cache tout le monde. Ouais.
On met un effervescent italien ou espagnol, et on met un anglais, et je suis pas sûr que ce soit l'anglais qui arrive le dernier.
La bulle anglaise Neitimber est tout à fait intéressant, avec une bulle effectivement très fine. Merci beaucoup Antoine. Passons justement, puisqu'Antoine l'évoquait à l'instant, à la cuisine salée de la rhubarbe, c'est intéressant. Là aussi vous avez fait quelques expérimentations. Kedah, en chutney, en pickles, ou vous disiez effectivement...
Avec le porc,
que ça pouvait s'accompagner de certaines viandes.
Ça marche très bien, une petite compote ou même un peu poêlée avec un tout petit peu de liquide et peut-être un petit peu de sucre, mais juste comme ça, pour comme on mettrait du sel.
Un peu moins de sucre que si c'était
voilà,
un dessert, évidemment.
Ça marche super bien avec le porc, effectivement.
Donc un peu comme un légume.
Ouais, oui. Comme un petit condiment, un peu plus entre un condiment et un légume. Hein, ouais.
Oui, ou un chutney d'agrumes, par
ou
exemple.
Voilà, en chutney aussi.
Pickles.
Oui, en pickles. Avec l'avantage de garder le côté craquant, en fait, puisque le chutney, bon, c'est forcément très cuit et très compoté. Un pickle, bon, c'est autre chose, c'est vraiment le.
Expliquez-nous.
L'acidité, il s'agit de verser sur les petits morceaux de rhubarbe un mélange de vinaigre. Le vinaigre de cidre est pas mal, parce que voilà. Avec un peu de sucre et du sel pour le côté aigre-doux. Et puis après, des épices entières, comme des graines de moutarde, un peu de clou de gévrofle, de l'anis étoilé, des choses comme ça.
Et les lamelles sont crues à la base, on est d'accord. Hein,
des lamelles crues, voilà, j'en ai apporté. Et je vous fais passer.
Et on veut que ça reste bien croquant.
Et du coup, ça reste bien croquant. Si elle est rose, bon là, elle a un peu changé de couleur déjà, mais elle est parce qu'elle était quand même assez verte. Mais si c'est bien rose, je pense que ça fait quelque chose de très joli. On peut mélanger aussi avec de l'oignon rouge. Et voilà, on verse le mélange dont je viens de vous parler, chaud, sur la rhubarbe, et puis on met ça dans un pot et ça fait quelque chose d'assez et plus ça attend, plus on a les goûts.
C'est tonique,
c'est un peu tonique.
Vous avez relevé en fait une petite bouchée d'un fromage anglais.
Oui,
avec
c'est ça, c'est un fromage anglais, un cheddar un peu fermier. C'est pour un peu donner l'idée de
prenez une gorgée
ça...
de Neitimber, vous allez voir, on est raccord.
Très bien, un dernier petit truc.
Un dernier petit truc en salé ou en tout. Si, un dernier petit truc, c'est que la rhubarbe va aussi très bien avec les fraises, comme on le disait tout à l'heure. Et puis, ça va très bien avec le whisky aussi. Si on poche des tronçons de rhubarbe très brièvement dans un sirop léger, donc eau et sucre, et qu'après, on rajoute un peu de whisky dans ce sirop, peut-être pas tous les whiskies, mais certains ont quand même des
plutôt iodés.
Un peu iodés, et ça marche très très bien.
Très bien, merci beaucoup. Mathieu Vermès, merci de nous avoir rendu visite le domaine de la source à Sariquet. Est-ce qu'il est possible de venir acheter de la rhubarbe chez vous?
Tout
tout à fait.
Donc vous faites aussi de la vente en direct.
Voilà, mais on fait quand même entre 20 et 25 tonnes par an.
Oui.
Et c'est vrai qu'on est beaucoup plus souvent dans les champs qu'à l'endroit de vente, mais c'est vrai que, oui, bien sûr, sur commande.
Eh bien, merci en tout cas de nous avoir rendu visite. On retrouve aussi votre produit chez certains grands pâtissiers qu'on a cités, évidemment. Kéda Black, créatrice culinaire, auteur aussi de « Changer d'assiette » aux éditions Marabout avec, à la page 228, dessert glacé à la rhubarbe dont on réserve la recette à nos lecteurs sur franceinter.fr. À la page, on va déguster, regardez la photo, ça donne pas envie. Ah, une glace à la rhubarbe avec le jus de la rhubarbe. Vous avez également signé, Kéda, le livre Cuisson, apprendre à bien cuire pour bien cuisiner. Manuel de cuisine pratique aux éditions Keribus. Dans un instant, question politique après le flash de midi et la semaine prochaine, à nous Saint-Malo, on va déguster Dresse le couvert depuis le festival Étonnant Voyageur pour une émission en public depuis le palais du Grand Large à Saint-Malo. C'est en direct. Venez nombreux, merci à tous.
Merci.
Merci.
Et à dimanche prochain, si vous avez encore faim.